Nous y sommes. Donc, ben voilà, j'ai été déjà présenté. Donc, je suis maître de conférence sciences de l'éducation à l'ESPE de l'Université de Nantes, ex-IUFM, spécialiste de l'enseignement professionnel, ancien PLP lettres-histoire. Les débuts de ma carrière s'étant réalisés en banlieue parisienne, à l'Académie de Versailles, dans divers lycées professionnels. Pour l'essentiel industriel et du bâtiment. Puis ensuite, voilà, j'ai fait une thèse, je suis devenu maître de conf. Donc j'ai travaillé, j'ai d'abord travaillé sur l'histoire de l'enseignement professionnel, parce que c'est quelque chose que qui était relativement peu étudié, donc ça m'a fait un beau sujet de thèse. Et puis ensuite, j'ai avancé sur différents sujets. Je me suis plutôt orienté vers la sociologie de l'éducation et je suis resté autour des questions de formation professionnelle, d'enseignement professionnel. J'ai un peu dévié de temps en temps sur des choses parallèles, mais pas beaucoup. J'ai travaillé sur les femmes de chambre de grand hôtel. C'est un peu pas tout à fait lié avec l'enseignement professionnel. Et puis, voilà, je suis arrivé à Nantes il y a 7 ans et nous avons donc, avec mon collègue Pierre-Yves Bernard, lancé une enquête assez lourde. On a eu des moyens. Je m'empresse de remercier immédiatement l'UNSA Éducation qui nous a financé deux enquêtes longues qui nous ont permis de faire une enquête auprès d'une première fois de 560 élèves de bac pro, donc de l'Académie de Nantes, hein, avec trois établissements témoins en région parisienne. Et puis ensuite de suivre ces élèves. Alors, ça n'est pas un vrai suivi de cohorte. Dans la mesure où nous n'avons pas eu quand même les moyens d'organiser un vrai suivi de cohorte, c'est-à-dire de suivre chaque élève sur un groupe de 500 sur 4 ans. Donc en fait, on les a suivis 2 ans et ensuite on est revenu l'an dernier quand ils étaient, il y a 2 ans et l'an dernier quand ils étaient en terminale, on est revenu les interroger. Donc on est retourné dans les mêmes classes, dans à peu près les mêmes établissements, mais c'était pas tout à fait les mêmes élèves parce qu'il y a du turnover, bon, etc. Enfin, en gros, ça se tient quand même, c'est des cohortes, c'est des promotions qui se ressemblent. Et puis on en a encore interrogé une centaine, 150 l'an dernier, donc quand ils étaient en première année de formation post-bac. Pour l'essentiel, ils étaient tous enfin ceux qu'on a interrogés étaient en BTS dans la très grande majorité des cas. Donc ça nous a permis, l'objectif c'était d'essayer de comprendre ce que cette réforme était susceptible de changer. Alors d'abord auprès des élèves et de leur trajectoire scolaire. Moi, je faisais évidemment, connaissant bien le sujet, je faisais l'hypothèse que de ramener la scolarité à 3 ans, ça risquait d'avoir des effets assez significatifs auprès du public DLP. Donc on voulait vérifier ça. Donc je vais vous donner très rapidement quelques résultats globaux sur le suivi des élèves, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a demandé de travailler sur les profs. Et donc, pour aller vite, je dirais autant la réforme, on peut considérer, en étant très prudent, je vais vous dire comment après, mais on peut considérer que auprès du public et des familles, ça a eu un certain succès, ça a rendu probablement les LP plus attractifs, ou en tout cas, ça a atténué la réticence à s'orienter en LP de manière à peu près sûre. Autant pour les profs, c'est le titre que j'ai choisi, à l'évidence, ça n'a pas été facile. Ça a eu présenté des intérêts, c'est certain, mais ça a aussi placé les enseignants de LP dans des circonstances et dans des conditions de travail quand même assez éprouvantes. Et donc c'est ça que je voudrais vous montrer essentiellement cet après-midi. Donc voilà d'où le titre exact de la recherche. Ça s'appelle donc le bac professionnel en 3 ans, les élèves de LP entre nouvelles trajectoires de promotion scolaire et risque d'espoir déçu. Ce qui est en dessous, c'est un lien Internet. Normalement, le rapport devrait être mis en ligne par l'IRES, par l'Institut de recherche économique et sociale, qui est un institut de recherche très lié enfin financé par les grandes organisations syndicales. Et puis, nous avons déjà publié 2 articles. Donc le premier, je pense que ça va être laissé à disposition, hein, ce PowerPoint, donc c'est pour ça que j'ai mis dessus. Donc la réforme du bac pro en 3 ans, ou l'appropriation d'une politique éducative par les familles populaires, dans une revue, donc c'est 2 revues universitaires, hein, Éducation et Société. Et l'autre, c'est plus le point de vue des politiques éducatives, qui est ce qui intéresse plus mon collègue Pierre-Yves Bernard, ce qui est paru dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et on a travaillé donc avec un jeune doctorant qui devait simplement au départ nous aider à faire le travail matériel lourd qu'il faut faire dans ces cas-là. Et puis finalement, il a vraiment participé à la rédaction du rapport. Donc il y fait partie aujourd'hui des auteurs. Et donc nous espérons publier un livre l'an prochain. On a des contacts avec un éditeur qui devrait nous suivre. Voilà. Donc j'ajoute une précision sur les lycées professionnels que vous connaissez sans doute, mais j'aime bien le rappeler. Enfin, plusieurs précisions sur le cadrage général du contexte. D'abord, ça représente, vous le savez, presque 700 000 élèves. On est aux alentours de 680 000 cette année. Ça fait quand même un tiers des lycéens français. Donc ça n'est pas comme souvent c'est perçu dans les médias, par les journalistes, et j'ajouterais même pour y avoir travaillé un an au ministère, c'est souvent perçu comme une sorte de petite institution peu connue, mystérieuse, dans laquelle se passent des choses qu'on connaît mal. Ça fait quand même un tiers des lycéens, hein, donc ça fait quand même du monde. Alors c'est vrai que ça fait moins de profs, puisque comme vous le savez aussi, il y a à peu près, je crois actuellement, 53 000 ou 54 000 enseignants, ce qui fait moins que les 380 000 profs du secondaire, mais ça tient essentiellement au fait qu'il y a moins de disciplines enseignées. Ça tient pas qu'à ça, ça tient au fait qu'il y a moins d'élèves, mais aussi le fait qu'il y a moins de disciplines enseignées, puisque les disciplines générales sont regroupées en deux champs professionnels. Voilà, donc forcément, c'est une institution importante numériquement dans notre société, mais relativement invisible, dont on parle peu, hein, et je le répète, pour l'avoir vécu, qui est très mal comprise des instances ministérielles. Voire même parfois les représentations que j'ai pu rencontrer sont assez exotiques. Voilà. Ce qui rend pas facile, évidemment, de travailler sur et de parler d'eux, parce que bon, ça n'attire pas tellement l'intérêt des décideurs. Et puis c'est vrai aussi, comme ce sont des enfants qui, pour l'essentiel, sont les enfants des familles populaires, c'est pas la classe moyenne, et donc c'est pas ceux qui ont la parole dans la société, quoi, pour le dire simplement. Voilà. Alors, autre caractéristique de cet enseignement, que vous savez sans doute aussi, c'est un enseignement qui subit des évolutions, à la fois en termes d'adaptation des formations aux besoins des entreprises et de l'économie, et donc en termes de pratiques pédagogiques, et donc de travail des enseignants, beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus rapides que les autres des autres institutions scolaires françaises. Ainsi, si nos collègues des lycées généraux subissaient autant de réformes qu'en subissent régulièrement et à vitesse répétée les PLP, je pense que nous vivrions des grèves à répétition beaucoup plus dures que ce qui se passe actuellement. Je le souligne parce que c'est vrai, hein, la nécessité d'abord de s'adapter évidemment aux formations, la nécessité de s'adapter à un public difficile, et puis un certain nombre d'évolutions aussi dans l'ordre pédagogique font que c'est un enseignement qui, depuis son existence, c'est-à-dire depuis 1939, puisque ça a été créé en 39, subit des évolutions quasi permanente, hein, avec une densité particulière, et ça a été le cas de la réforme dont on va parler maintenant. Voilà, pour le cadre général. Alors, les résultats de cette première enquête, donc ça c'était à la rentrée 2009, il y a eu deux grandes enquêtes, rentrée 2009 et puis 2012-2013. Donc 2009, c'est la première génération pour laquelle toutes les formations deviennent des bacs pro, à l'exception évidemment des CAP 2 ans qui restent à côté, mais il n'y a plus de BEP, quoi. Il n'y a plus de logique BEP. Il y a toujours un BEP délivré, vous le savez, en cours de formation en première, mais il n'y a plus donc ce barrage de BEP. En 2008, ça avait déjà commencé. Je crois que la moitié à peu près des LP en 2008 étaient déjà sur le cursus bac pro 3 ans. Mais là, à la rentrée 2009, c'est tout le monde. Donc nous interrogeons 538 élèves. Administrons un questionnaire qui portait sur leur projet d'orientation et la réalité de leur orientation et leur satisfaction. Ça se passe en octobre 2009, donc on essaye de savoir ce qu'ils avaient demandé, s'ils l'ont obtenu et s'ils sont satisfaits de là où ils sont. Sachant qu'on a couvert évidemment l'ensemble des spécialités, on a essayé d'être le plus représentatif possible. J'ai pas le temps là, je vais pas vous faire les détails de la justification de notre enquête, mais elle était à peu près valide de ce point de vue-là. Ce qu'on retiendra simplement, c'est que nous avons été, j'ai été et nous avons été, mais mon collègue Pierre-Yves n'étant pas PLP, il avait moins de présupposés que moi, on a quand même été surpris par les chiffres que vous voyez là, c'est-à-dire des élèves qui avaient demandé le LP en premier choix à 71%, donc très majoritairement. Et un total d'élèves qui avaient demandé en premier choix une formation professionnelle, qu'elle soit lycée professionnel ou apprentissage, à 87%. Autrement dit, ça nous a interrogé parce que le concept traditionnel en sociologie de l'éducation, c'est de dire qu'on est orienté en lycée professionnel par défaut. C'est-à-dire qu'on y va parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas obtenu d'orientation en seconde générale. Alors après, il y a des interprétations possibles, mais enfin disons que ça, déjà, ce chiffre-là nous a un peu surpris. Et puis deuxième chiffre, donc, ils étaient très contents de leur orientation en fin de mois d'octobre. Alors vous me direz, c'était mi-novembre, début novembre. Bon, alors vous me direz, c'est le début de l'année, ça peut changer, mais enfin quand même, hein, c'était un taux de satisfaction assez surprenant. Et parmi les 14% qui n'étaient pas satisfaits, il y avait ceux qui n'avaient pas eu la formation en apprentissage. Donc ils n'étaient pas nécessairement insatisfaits parce qu'ils n'avaient pas eu la seconde générale, ils l'étaient aussi parfois parce qu'ils n'avaient pas obtenu une formation en apprentissage. Donc ça nous dépeignait, ça nous faisait un public qui ne correspondait pas tout à fait à ce à quoi on s'attendait, et donc on a commencé à se demander si évidemment la réforme et l'effet bac pro 3 ans pouvaient avoir joué. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est pas l'objet de cet après-midi, mais la réponse est quand même globalement oui. Je vais vous dire pourquoi après, mais je vous montre ensuite ça, qui était l'explication du pourquoi. 60% des élèves rentraient en seconde en nous disant « moi, je viens là pour faire un BTS, pas pour faire un bac, encore moins pour faire un BEP, je suis là parce que je veux aller en BTS hein, ». 60%, c'était quand même beaucoup, hein, ça nous avait quand même étonné. Alors attention, 60%, c'est pas la totalité. Dans les 40% qui restaient, il y en avait à l'inverse qui nous disaient « mais moi, j'aurais même pas voulu faire un bac, j'aurais préféré faire un CAP, mais mes parents ont voulu un bac, etc. » Donc c'est assez hétérogène, hein, mais 60% quand même qui sont là avec ce projet de continuer pour des raisons multiples, hein, qu'on pourrait rapidement cataloguer, mais je voudrais pas prendre trop de temps là-dessus. Mais en gros, il y a ceux, entre guillemets, les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui constituent probablement, à la suite de cette réforme, et je dis tout de suite, en fonction des spécialités, c'est très variable. Hein, c'est pas la même chose quand vous regardez une classe qui travaille sur les systèmes électroniques numérisés et puis quand vous allez voir une classe de maçonnerie, c'est pas les mêmes élèves, hein, donc on n'a pas les mêmes répartitions, mais en gros une tranche d'élèves, une proportion qu'on n'a pas pu chiffrer, mais qu'à la louche je dirais autour de 10-15% des élèves qui sont vraiment de nouveaux entrants dans les LP, c'est-à-dire des gens qui dans la configuration antérieure auraient tenté la seconde générale parce qu'ils avaient les moyens de le faire. On a même eu des élèves qu'on a interrogés après qui nous ont dit « j'étais admis en seconde générale, je n'ai pas voulu y aller », et qui font un calcul de stratégie qui consiste à se dire « ça sera plus facile d'avoir un bac pro, je ne vais pas me coltiner les matières générales que je n'aime pas », parce que ça c'est un discours unanime, tous les élèves, on en a interrogé 41, quel que soit leur niveau, hein, ceux qui avaient redoublé 2 fois, ceux qui avaient redoublé 1 fois, ceux qui n'avaient jamais redoublé, ceux qui avaient de bonnes notes au collège, tous, c'est j'en ai assez de l'école. Sous-entendu, j'en ai assez des matières académiques générales. Ça, c'était absolument unanime. Et j'en ai assez aussi de rester assis. Ça, c'était la contrainte physique qu'impose la forme scolaire traditionnelle était très mal vécue. Donc, ils disent tous qu'ils en ont marre, mais parmi eux, donc, une tranche d'élèves qui sont ce que Bernard Charlot avait appelé dans les travaux antérieurs des gens qui développent une stratégie de détour, de contournement, c'est-à-dire ils se disent ça va être plus facile. Alors ceux-là sont plutôt de bons élèves hein, en général. Et puis il y a ceux qui font vraiment un projet professionnel, qui l'ont incorporé. Alors que ce soit le conseil de classe de 3e qui leur ait mis ça dans la tête en leur disant c'est pas la peine d'essayer autre chose, ou que ce soit eux-mêmes qui se le sont construits, peu importe, des élèves qui se disent voilà, je veux être mécanicien moto, je veux faire de l'électronique, etc., et qui choisissent le bac pro parce que ça leur paraît à leur niveau. Et puis ceux qui, on en a eu pas mal aussi, sont poussés par les parents qui auraient préféré parfois un BEP, mais les parents leur disent non, là maintenant c'est un bac, comme les autres. Alors ça, on l'a entendu en leitmotiv, ça y est, c'est un bac comme les autres, c'est donc égalité symbolique. Donc on n'est pas stigmatisé d'entrer dans l'établissement, on a un espoir de poursuite d'études. Donc voilà, ça fait en gros, c'est ça qui nous fait dire que cette réforme, de ce point de vue-là, hein, attention, de ce point de vue-là, a eu un effet d'attraction et a probablement pour partie renouvelé le public. Je dis bien pour partie, hein, ça reste quand même massivement des enfants d'origine populaire avec beaucoup de redoublants, etc. Mais avec sans doute une fraction significative d'élèves qui font ça par calcul. J'en ai eu un, alors vraiment, que dans ceux que j'ai interrogés, un type qui s'exprimait d'ailleurs extrêmement bien, qui était en chaudronnerie, qui travaillait tout seul. Quand je suis arrivé, il était travaillé tout seul dans l'atelier. Le prof m'a dit, ah ben oui, lui, je le laisse, c'est pas la peine, il a pas besoin de moi, il est en train de faire son bac tout seul, il aide les autres. Et c'est un gamin qui était bon élève et qui voulait devenir chauffeur routier international. Mais m'a-t-il dit, il s'exprimait vraiment très très bien et c'était très raisonné. Il me dit, je me suis renseigné, il paraît qu'il n'y a pas tellement de débouchés que ça, ça va être difficile, je ne veux pas rentrer dans un BEP parce que c'est pas assez bien, sous-entendu pour moi, quoi, quand même, je peux faire autre chose. Donc je vais faire ce bac parce qu'il y a des débouchés dans ce métier. Après, je vais faire un CAP en un an de conduite routière, je ferai de la conduite routière internationale, c'est ça que je vais faire. Puis après, je reviendrai me former, me finir de me former. Il y a un type vraiment totalement, un calcul complet, un type tout à fait à l'aise et visiblement de très bon niveau. Donc c'est un peu un cas extrême, hein, mais visiblement ça a attiré quand même des profils de ce type dans ces établissements, ce qui est quand même assez nouveau, même si ça existait déjà un peu, mais c'était visiblement moins fréquent, d'où un certain rajeunissement des élèves. Alors le rajeunissement n'est pas lié uniquement au fait qu'il y a ce type d'élèves qui rentrent, il est lié aussi au fait qu'on redouble moins au collège, hein, désormais. Donc le taux de redoublement mécaniquement baissant, il y a moins d'élèves. Cela dit, on est toujours aux alentours des deux tiers des élèves de LP qui ont redoublé au moins une fois. Ce qui est le redoublement devenant un marqueur d'échec ou de difficulté plus fort qu'avant, puisqu'on redouble moins. Donc, ceux qu'on fait redoubler, c'est sauf. Alors, ça dépend. Il y a deux politiques dans les collèges. Il y a ceux qu'on fait redoubler ou il y a ceux qu'on laisse passer le plus rapidement possible pour s'en débarrasser. Ça existe aussi. Hein. Mon collègue Brocolicchi avait relevé cette technique dans certains collèges de Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais donc, globalement, un public visiblement plus motivé, avec majoritairement un projet de poursuite d'études, et pour une petite partie de ce public, sans doute des éléments un peu nouveaux, ce qui complique aussi la vie des collègues, puisque ça accentue dans certaines classes l'hétérogénéité des publics. C'est-à-dire qu'on a des enseignants, on va peut-être le voir, on va le voir là, qui ne sont pas pleins, mais qui nous ont dit « Ah, mais ça, c'est nouveau, là, j'en ai, vous comprenez, ils sont très bons, puis je traîne toujours les autres, c'est plus compliqué qu'avant. » Voilà. Alors, est-ce que 4 ans plus tard, enfin 3 ans plus tard, où est-ce qu'en étaient ces élèves? Parce que c'est évidemment ce qu'on voulait vérifier, qu'on a pu faire. Donc ça, c'est nouveau, Sabine, hein, ça n'était pas là l'an dernier quand j'avais fait l'exposé, ou pas tout à fait. Donc voilà, résultat, alors je simplifie aussi au maximum, hein, on a évidemment étudié ça de manière plus détaillée, mais résultat 3 et 4 ans plus tard, donc 3 ans en terminale et puis ensuite l'année suivante, donc là c'est ce qu'ils ont renseigné sur APB, hein, ce qu'ils ont demandé sur le logiciel d'orientation en terminale, et donc ce qu'on avait voulu voir c'est si effectivement le bac pro 3 ans avait un effet, parce qu'on avait une impression comme ça mais c'était pas du tout chiffré, donc là on a fait un travail statistique sérieux, mon collègue Pierre-Yves est un spécialiste de ces techniques, et donc il apparaît clairement que ceux qui ont fait un bac pro 3 ans sont beaucoup plus nombreux à demander des poursuites d'études, curieusement d'ailleurs, plus en alternance qu'en formation initiale. Donc vous voyez, poursuite d'études, c'est formation initiale, poursuite de formation en alternance, recherche d'emploi à temps plein à la sortie du bac. Donc là, il suffit de comparer la colonne recherche d'emploi à temps plein, évidemment, 34% dans les bacs pro 3 ans, 53% dans les bacs pro 4 ans. Donc c'est clair qu'il y a, et on l'a mesuré après de manière plus détaillée, il est évident que c'est un facteur d'incitation à la poursuite d'études, ne serait-ce que parce que ça dure que 3 ans et que de toute façon ils vont au bac, puisque pratiquement, alors ça aussi c'était un des enseignements de notre interrogation, je m'étais demandé si certains élèves n'allaient pas décider de s'en aller à la fin de la première avec un BEP ou un CAP, c'est pas le cas. Alors là vraiment absolument pas le cas, ça ne les intéresse pas. Bon, il est vrai aussi que je crois pas que les profs, les collègues insistent beaucoup sur cette possibilité. Le BEP est en train de s'évanouir dans la nature. Il est possible d'ailleurs que ça ait des conséquences aussi, enfin c'est même certain, en termes d'insertion professionnelle, parce que je crains que assez rapidement le BEP, sauf peut-être dans certaines professions, perde de sa valeur d'insertion sur le marché du travail et que les employeurs s'habituent à considérer que c'est le bac pro, le niveau de base. Hein, ça risque, on a ce risque-là, ce qui a des effets sur ceux qui n'auront pas le bac. Donc là, je dis ça parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'autre conséquence de la réforme pour les élèves, j'entends, la première, c'est probablement que, enfin c'est certainement que ça a un effet d'attraction et que ça attire plus vers les poursuites d'études. En revanche, ceux qui échouent vont être beaucoup plus marginalisés qu'avant, puisqu'ils vont se retrouver, s'ils échouent au bac ou s'ils abandonnent en cours de route, avec des diplômes qui risquent d'avoir moins de valeur d'insertion sur le marché du travail, et en plus d'être en concurrence avec un nombre de bacheliers professionnels beaucoup plus nombreux qu'avant. Donc là, on a un risque de marginalisation de ces publics qui pose problème. Voilà. Alors, sur l'autre... donc là, vous avez la question de leur poursuite d'études, de leur projet. Et ensuite, donc, nous sommes allés voir ceux qui avaient continué. On leur avait demandé, donc on en avait réinterrogé 500, et il y en a 170, 180 qui nous avaient laissé un numéro de téléphone pour l'année suivante. Là, c'est là que notre jeune doctorant a été très utile, parce qu'il a fait que ça pendant 2 mois. Hein, il a passé ses 2 mois au téléphone et sur les internets pour les convaincre de répondre à un deuxième questionnaire. Et donc, on a eu 143 réponses. On est en dessous du seuil de validité sociologique, hein. Normalement, il en faut 500, c'est quand même une base. Mais bon, ça permet quand même, 143, ça permet de se faire une idée. Et donc là, j'ai simplement retenu 2 chiffres qui nous ont là aussi relativement étonnés. D'abord, 81% sont satisfaits de ce qu'ils ont fait après le bac. Donc là, ils sont tous en BTS, quelques-uns dans des formations complémentaires. Ils sont satisfaits alors que ils ont d'énormes difficultés. Surtout dans les spécialités tertiaires. Ils souffrent. On a fait 17 entretiens. Il y en avait 14 qui étaient en BTS. Il y en a 3 qui étaient sûrs de passer en deuxième année. Les autres ne savaient pas. Certains avaient déjà abandonné. Mais ils sont quand même contents. Là, on les a interrogés en janvier et février. Hein, donc, ceux qui étaient en difficulté, ils savaient déjà qu'ils étaient en difficulté. Mais ça fait rien. Ils étaient contents d'être là. Et 93% estiment que leur bac donc donne une qualification reconnue. Donc ça... c'est un élément psychologique, je dirais, de la réforme. Ces jeunes-là, quand ils ont le bac, ça déclenche quelque chose chez eux de manière assez nette qu'on a perçu dans les entretiens. C'est en gros, quand même, je suis capable de le faire, quoi. Donc, du coup, ils se reconstruisent des projets de manière assez pragmatique, d'ailleurs. Ils sont pas du tout naïfs. Ils savent que c'est difficile. Certains renoncent au BTS, mais ils renoncent, mais pas complètement. C'est-à-dire que ça, c'est comme si ça les aidait à se reconstruire quelque chose qu'ils pensent sur le long terme. Donc ils disent, bon, j'ai arrêté le BTS, là, j'y arrive pas, mais je travaille chez un tel et je cherche une formation en alternance complémentaire et peut-être je reviendrai dans un autre BTS, etc. C'est-à-dire vraiment, ça a un effet déclencheur sur ces élèves-là, c'est-à-dire ceux qui ont réussi au bac, hein, attention, hein, c'est évident, et qui ne sont pas rentrés sur le marché du travail. Sur ces élèves-là, ça a à l'évidence des résultats. Bon, voilà, je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Et donc maintenant, comment nos collègues de lycée professionnel ont vécu ces réformes? Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup moins rose. Hein. C'est même un peu l'inverse, et très sincèrement... je les comprends, puisque vous avez compris que j'ai été moi-même assez longtemps PLP, et je pense que si j'avais été à leur place, j'aurais eu du mal à avoir ce côté positif là que je viens de vous énoncer, qui est celui de la position confortable du chercheur, vous voyez, qui vient expliquer aux gens, mais si, ça se passe bien, regardez, ils sont contents, vos élèves. Mais les collègues, c'est un peu plus difficile. Alors d'abord, j'ai mis ce mot entre guillemets, donc là je vais vous exposer, le reste de l'exposé, c'est uniquement des extraits d'entretiens avec des collègues, que j'ai classé thématiquement. Donc premier thème, c'est la première chose qui nous a été dite quand on est allé interroger ses collègues. Alors là, c'était pas en 2009, on les a interrogés à la fin de l'année scolaire 2010. Donc on en a quand même interrogé plus d'une vingtaine, je crois pas dire de bêtises. Donc ça fait beaucoup, hein, dans une enquête, dont des chefs d'établissement, 4-5 chefs d'établissement et puis 17-18 collègues. Alors le mot brutal a été utilisé. Donc la réforme, vous en souvenez, on est en 2008, enfin hiver 2007-2008, Xavier Darcos déclare généralisation de l'expérimentation commencée en 2001. la moitié à la rentrée 2008, le reste en 2009. C'est très 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 rapide, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une réforme qui passe à la hussarde. Encore une fois, je le répète, aucun ministre de l'Éducation nationale ne s'amuse à ce genre de jeu avec les collègues de lycées généraux et technologiques. Hein. Il prend beaucoup de précautions, il envoie des ballons d'essai, il teste avec les syndicats, il regarde ce qui se passe avant de s'exciter. Là, crac, hein, 2007-2008, réforme et PLP, vous êtes prié à la rentrée 2008 de faire bac pro 3 ans pour la moitié et l'année suivante. Alors que, je le rappelle aussi, en 2005, il y avait eu un rapport de l'inspection générale qui avait été assez circonspect sur la généralisation de la... Puisque, je le rappelle aussi, la réforme date... Enfin, l'expérimentation du bac pro 3 ans date de 2001. Hein, c'est 2000. C'est Jack Lang et surtout Jean-Luc Mélenchon à l'époque qui en accord avec l'Union des industries mécaniques et métallurgiques, Jean-Luc Mélenchon peut passer des accords avec le patronat quand il est ministre, avait proposé donc la généralisation du bac pro en 3 ans. L'expérimentation. Et donc ça se faisait depuis maintenant, depuis 6-7 ans quand c'était généralisé, mais la décision de généraliser a été prise de manière vraiment rapide, précipitée, et je le répète, sans que les corps d'inspection aient manifesté un grand enthousiasme. Ils étaient assez circonspects sur la question. Donc voilà ce que ça donne pour un chef d'établissement, très mal vécu par les enseignants. La méthode du ministère n'a pas été bonne non plus. On est passé en force sans jamais les interroger. Et quand il dit les interroger, c'est pas seulement les enseignants, c'est leurs organisations syndicales. Et d'ailleurs, peut-être vous en souvenez, dès février-mars 2008, il y a des manifestations assez fortes. Les collègues descendent dans la rue. Il y a une unanimité syndicale pour résister à cette réforme. Alors, quelques mots sur la résistance, parce qu'il faut pas non plus être naïf. Il y a d'abord, c'est une réforme Sarkozy. Et là, clairement, c'est vrai que les syndicats à gauche, le personnage de Nicolas Sarkozy a quand même, vis-à-vis de son électorat d'opposition, une certaine capacité à générer une hostilité extrêmement immédiate et forte. Hein. Donc c'est pas seulement un gouvernement de droite, c'est aussi une réforme Sarkozy d'un ministre Darcos qui lui-même a une réputation un peu... Bon. Donc il y a cette opposition-là. Ensuite, il y a évidemment la perte d'un an, donc le risque de perte de poste, puisque une formation raccourcie d'un an, c'est des postes en moins. Mais, et j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est sincère et je l'ai mesuré et je le comprends bien, il y a aussi, chez les PLP, une dimension qui fait partie de leur identité professionnelle de manière collective et forte et qui est vérifiée par toutes les enquêtes, Aziz Djellab, une collègue et moi-même avons fait des enquêtes là-dessus aussi, Françoise Lantôme, qui est cette caractéristique identitaire des PLP, faut se méfier du mot identité, mais enfin en gros c'est ça, c'est d'être préoccupé, fortement préoccupé par la réussite des élèves et dans une empathie avec la difficulté de leurs élèves. En gros, le discours collectif de tous les PLP, c'est à la fois de dire bon, c'est des élèves difficiles, ils sont pénibles, ils sont agressifs, je suis fatigué, j'en ai marre, et de l'autre côté de dire en même temps, mais si, on est leur dernière chance, si on fait pas bien le boulot, où vont-ils? Et on a de l'empathie pour les difficultés de ces élèves. Et donc, quand on annonce un bac pro en 4 ans, beaucoup de collègues sont très sincèrement persuadés que ça va être difficile pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sentiment que ces 4 années ne sont pas perdues pour aider ces gamins et ces filles à remonter la pente de l'échec scolaire. Donc c'est vrai aussi qu'il y a cette hostilité-là à la réforme qui n'est pas seulement, donc, je dirais, politique et corporatiste, mais aussi profondément, plus profondément pédagogique. Donc voilà, ça passe mal. Et j'ai parlé des corps d'inspection. C'est important, je crois, de le souligner, parce que dans l'enseignement technique et professionnel, plus que dans l'enseignement secondaire, les corps d'inspection ont une proximité avec les enseignants, une habitude de travail avec les enseignants qui est, je suis sûr, un peu plus forte, un peu plus, il y a un accompagnement plus fort, et les enseignants de l'enseignement professionnel, notamment dans les disciplines professionnelles, plus que dans l'enseignement général, ont l'habitude de se tourner vers les IEN. Il y a une relation, alors ça dépend évidemment si l'IEN, vous savez comme moi, est spécialiste vraiment de la question ou pas, mais enfin, il y a une plus grande proximité, donc c'était important. Et voilà ce que dit donc un autre chef d'établissement. Ils ont vécu la même chose que tout le monde, c'est-à-dire une brutalité. C'est lui qui emploie le mot de brutalité. Il n'y a pas eu de concertation. Et elle dit carrément, en fait, ils n'étaient pas plus informés que nous de ce qu'il fallait faire pour mettre en place la réforme. J'ai d'autres témoignages où des collègues disent, les inspecteurs sont venus nous voir pour nous demander comment on faisait. évidemment avec le sentiment quelque part qu'il y avait des rôles inversés, ils auraient préféré que ce soit les inspecteurs qui leur disent comment faire. Donc voilà, ce caractère extrêmement précipité de la réforme, perçu comme une forme brutale, hein, par les collègues, ça a évidemment pas fait démarrer les choses aisément. Cela dit, je le dis tout de suite, ils l'ont tous fait. C'est-à-dire que j'ai pas vu d'établissement, et on a fait 19 établissements au total dans l'Académie de Nantes. Aucun chef d'établissement ne m'a dit j'ai des collègues qui renâclent, qui le font pas, qui se mettent font la grève d'usage, etc. Tous m'ont dit ils le font. Ce qui est là aussi tout à fait caractéristique de l'identité des PLP. Encore une fois, des comparaisons avec d'autres ordres d'enseignement n'aboutiraient certainement pas aux mêmes conclusions. Donc là, on a une identité professionnelle qui fait que tout en étant très réticent à cette réforme, tout en étant parfois hostile, une fois qu'elle est mise en place, les profs se sont vraiment mis au travail. Donc du coup, outre la dimension de brutalité, clairement, j'ai interrogé des gens, nous avons interrogé des gens qui ont eu tous le même discours, confirmé par leur chef d'établissement. Et c'est important ça, hein, parce que bon, parfois il y a un réflexe chez les profs un peu qui fait penser parfois au sketch de Fernand Reynaud, ça a eu payé. Hein, les profs se plaignent quand même facilement, hein, donc il faut toujours prendre un discours de plainte, il faut toujours l'analyser. Mais là, tout le monde était d'accord pour dire que ça a été extrêmement... cette brutalité a créé une surcharge de travail, d'autant qu'ils l'ont mise en œuvre, la réforme. Donc surcharge de travail, c'est le premier point. L'an dernier, on n'avait pas d'heures. Moi, j'ai commencé avec le fameux portefeuille de compétences. Je faisais ça sur mes heures de cours, les entretiens individuels, et puis comprendre un peu leur motivation, etc., etc. Donc, une mise en œuvre tout autour du suivi individualisé, tout simplement de la mise en œuvre des nouveaux programmes, de la compréhension. Enfin, là, tous nous disent, on a bossé beaucoup plus que les années précédentes. D'autant que intervient pour la deuxième année l'organisation des contrôles en cours de formation. Où là aussi, c'est une surcharge de travail, puisqu'il faut le mettre en place pendant qu'on continue les cours. Donc là, voilà, cette prof de cosmétologie, là, qui est donc en esthétique, qui nous dit on est obligé de planifier les examens à l'avance, et puis après, il faut faire passer les élèves en même temps qu'on est en cours, il faut occuper les autres, du travail, etc. Donc, bon, quiconque a enseigné une fois dans sa vie voit très bien ce que ça veut dire. Hein. C'est pas un doublement, mais enfin, c'est quand même une charge de travail auquel on n'est pas habitué et qui vient s'ajouter aux autres questions qui sont notamment celles que pose la mise en œuvre du suivi individualisé. Là aussi, tout l'établissement qu'on a interrogé, les chefs d'établissement essayaient de mettre en place le suivi individualisé. Alors là, c'était pas mon objet de recherche, donc on n'a pas creusé, mais on a eu le sentiment que c'était le royaume de l'improvisation, du bricolage, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient pour le faire, parce qu'ils voulaient vraiment le faire, mais évidemment, à moyen constant, hein, donc, comment on fait? Alors, ce que ça a souvent eu comme résultat, c'est ce que j'ai indiqué, c'est le troisième point des difficultés des collègues, c'est que ça a fait ressurgir des conflits internes aux établissements, en général autour des heures, justement, qu'on allait distribuer ou pas distribuer pour le faire, et notamment des conflits alors de collaboration entre les enseignants, c'est ce que dit le premier texte, des enseignants, alors là, c'est vrai, hein, des enseignants qui souvent avaient leurs petites habitudes, hein, il y avait l'atelier de mécanique, il y avait les bureaux de comptabilité, chacun travaille tranquillement dans son coin, on a ses petits projets, on travaille un peu avec le prof d'enseignement général de temps en temps, et là tout d'un coup, crac, il faut trouver des heures communes, il faut faire du soutien transversal, enfin bon, donc une résistance là pour le coup, c'est vrai, et puis des difficultés, mais aussi, et ça je l'ai beaucoup entendu, des conflits entre disciplines, c'est-à-dire les heures de suivi individualisé, qui les prend? Nous, on est en français, c'est normal. Ils ont besoin de faire du français en plus. Donc, crac, on prend les heures pour le prof de lettres histoire. C'est souvent les profs de lettres histoire qui ont été accusés. Hein, je dois le reconnaître. Ma plus grande honte, puisque je suis un ancien PLP de lettres histoire, mais c'est souvent eux qui ont été accusés d'avoir tenté de s'accaparer les heures de suivi qui étaient proposées. Et donc là, je n'ai évidemment pas détailler tout ça, mais je crois que tout à l'heure dans l'atelier on a retenu des textes qui l'approfondissent. Là, les chefs d'établissement se sont battus avec avec ce qu'ils pouvaient inventer. Hein. Donc chacun a inventé des techniques différentes, a essayé de convaincre les enseignants, a réglé ce genre de conflit, etc. Donc ça aussi, hein, dans les deux premières années, ça a provoqué des perturbations dans les conditions de travail quotidienne de nos collègues assez spectaculaire. Parce que quand viennent, vous voyez ce que je veux dire, hein, déjà, il faut quand même prendre en compte les nouveaux programmes. C'est pas ça qui fait problème. C'est ça qui est assez étonnant. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'on me dise, puis en plus, il y a ces programmes nouveaux. Non. Donc là, l'idée que j'avais déjà un peu avant, pour avoir discuté avec des collègues, pour avoir un peu préparé le travail, de se dire, bon, la réduction de 4 en 3, compte tenu de la dimension assez récurrente des programmes de LP, ça ne doit pas être trop difficile. Bon, visiblement, ça ne l'est pas. En tout cas, je n'ai entendu aucun des collègues se plaindre d'avoir eu à réduire en 3 ans ce qu'il faisait en 4. Pour les élèves, oui, pour lui, non. Pour elle ou lui, non. Donc là, de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça ait posé problème. En revanche, tout le reste, oui, clairement. Donc, travailler ensemble, mettre en place le suivi individualisé, mettre en place le CCF, s'adapter à des publics, je l'ai dit tout à l'heure, un peu nouveaux et plus hétérogènes, tout ça, ça a créé des surcharges de travail. Et surtout, j'y reviendrai tout à la fin, mais ça se fait avec le sentiment qui est classique chez les PLP, quand même, que leurs efforts ne sont absolument pas reconnus. C'est-à-dire que ça se fait dans l'anonymat des lycées professionnels. Alors, parfois, les chefs d'établissement sont capables de donner un sentiment de reconnaissance aux collègues qui font ces efforts, mais pas toujours, ça dépend des gens. Les corps d'inspection, je l'ai dit, étaient tout aussi perdus que les enseignants, et donc essayaient de travailler avec eux, mais en n'ayant aucun outil à leur apporter, donc forcément, ils n'ont pas constitué des éléments rassurants. Hein, on a eu quelques anecdotes, je suppose que ça a été dans toutes les académies, où certains inspecteurs sont même repartis assez rapidement des établissements pour éviter des affrontements conflictuels, parce que évidemment les enseignants attendaient des informations, ils les avaient pas, bon, enfin bref. Donc voilà, ça a créé, quand j'ai dit tout à l'heure souffrance, c'est clair que ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui de la souffrance au travail, c'est-à-dire des efforts non rémunérés, un temps de travail multiplié, des conditions de travail plus complexes, des conflits internes et une hiérarchie qui, sans être évidemment du tout malveillante, mais une hiérarchie qui est assez désarmée, elle aussi, devant la réforme qu'elle doit mettre en œuvre. Bon, ça, si vous voulez, vous racontez ça à n'importe quel sociologue du travail, il vous annonce immédiatement qu'il va y avoir des arrêts maladie en série, des conflits, des gens malades, peut-être même des suicides, enfin, etc. Hein, on a eu l'impression que tout était fait pour que ça soit compliqué et douloureux. Donc ça, c'est la dimension difficile. Se rajoute à ça l'autre dimension, celle des élèves. Donc je l'ai dit tout à l'heure, des élèves plutôt plus jeunes, alors pas massivement, hein, attention, il y a toujours à peu près 57-58% de redoublants qui rentrent en seconde de LP. Donc ils sont beaucoup plus nombreux qu'au collège. Mais il y a quand même un certain nombre d'élèves plus jeunes, à la fois, je l'ai dit et je le répète, d'une part, sans doute, parce que la réforme, avec son effet d'attraction que j'ai décrit tout à l'heure, attire une petite minorité, mais quand même significative, d'élèves qui, effectivement, sont plutôt des élèves moyens qui auraient pu rentrer en seconde générale. Donc ça rajeunit, évidemment, ils sont pas redoublants. Parfois même, quand je suis arrivé en 2009, le directeur des services chez nous, ça s'appelle le DAFPIC, directeur académique de la formation professionnelle, etc., me dit, on a cette année pour la première fois des élèves de 14 ans, en nombre, évidemment très faible, genre du type 1% ou 1,5%, mais qu'on peut comptabiliser, c'est-à-dire qui sont visibles dans les statistiques. C'était pratiquement, ça n'arrivait jamais, pratiquement, au lycée professionnel. Donc, un rajeunissement, donc deux conséquences. Moins de maturité, des élèves beaucoup moins mûrs, plus enfants, vous allez voir les témoignages, et aussi des classes plus hétérogènes. Donc la maturité, voilà, beaucoup, ça j'ai choisi un exemple, j'en ai eu, ça vraiment, ça a été un discours leitmotiv des collègues, on voit arriver des gosses qui sont toujours au collège, quoi. Ils ils sont pas passés au lycée en fait. Hein, ils continuent de fonctionner comme avant. Alors ça veut dire on me raconte, eh bien, ils travaillent pas chez eux une fois que c'est fini. Ça c'est pas nouveau chez les élèves de lycée professionnel, mais disons qu'ils ont une approche de l'heure de classe assez infantile. Ils bavardent facilement tout en étant plutôt de bons élèves. Ils prennent pas grand chose au sérieux et surtout ils ne se projettent pas au-delà du présent et de l'année de seconde. C'est-à-dire, le bac, c'est dans 3 ans, on a le temps, donc voilà, il n'y a pas le feu au lac, on n'est pas pressé. Alors qu'évidemment, les collègues étaient habitués, avec le BEP en 2 ans, à avoir cet outil bien connu des enseignants, qui est « attention, vous passez l'examen ». 2 ans, ça reste un temps pour un adolescent qui reste encore dans son horizon proche. 3 ans, c'est très loin. Et donc tous les collègues nous disaient, mais enfin vraiment, c'est affolant. Ils se rendent par rapport aux générations précédentes. Là, ils comparaient vraiment. Et ils s'en foutent quoi. Ils sont là, ils continuent. En gros, ils continuent le lycée tranquillement. Bon voilà, il y a pas d'angoisse, même quand ce sont de bons élèves. Alors évidemment, immaturité aussi. Là, j'ai choisi volontairement un témoignage un peu anecdotique, mais immaturité par rapport à ce qu'est le métier. C'est-à-dire, ce qui est normal chez des ados de 14-15 ans aujourd'hui, hein, c'était pas vrai il y a 50 ans, mais aujourd'hui c'est vrai, une approche des conditions d'exercice professionnel très enfantine, très immature, très fantasmée. Hein, ils sont encore dans le fantasme. Donc si c'est les conducteurs routiers, ils s'attendent à conduire tout de suite un smirmorque sur l'autoroute. Si c'est des gens qui font de l'électronique, ils se disent qu'ils vont immédiatement travailler sur des programmes sophistiqués, etc. Il n'y a pas de vision. Donc là, j'ai choisi ça, évidemment, parce que c'est drôle. Elle était d'ailleurs très agacée, cette dame, de me dire elles sont pénibles, parce qu'elle se figure que ça y est, on va tout de suite aller rentrer dans des studios de télévision pour maquiller les stars qui se présentent. Donc voilà, c'est assez clair. Le cas le plus drôle que j'ai eu, mais j'arrête de le raconter parce que j'ai déjà beaucoup raconté, mais qui est à cheval entre les deux difficultés que j'ai énoncées là. Donc la première, le rapport au métier est un peu fantasmé, mais la deuxième aussi, des élèves très jeunes, donc sans expérience professionnelle, qu'on est obligé de placer en stage dès le premier trimestre, alors qu'ils n'ont, contrairement à ce qui se passait avant, hein, il y avait peu de stages en BEP, donc quand ils arrivaient en stage en bac pro, c'était des gens qui étaient déjà dans le métier qu'ils préparaient, relativement opérationnels. Là, non seulement ils ne le sont pas du tout, mais en plus, ils n'ont pas 16 ans, la plupart d'entre eux. Or, en dessous de 16 ans, la législation du travail est extrêmement contraignante. Pas d'objets contondants ou dangereux, pas de travail de nuit, etc. Donc, des conditions de stage difficiles à gérer et des enfants immatures. Donc l'anecdote que je raconte toujours, parce qu'elle m'a évidemment beaucoup fait rire, c'est un collègue de bâtiment, je crois qu'il était, il devait être dans ce que j'appelais moi la maçonnerie autrefois, ça a changé de nom, mais c'est la même chose, ou peut-être installation sanitaire, et il voit débarquer un employeur à 5 heures de l'après-midi qui lui ramène un gamin par le pot du cou en disant « Je l'ai trouvé endormi dans une baignoire à 2 heures de l'après-midi sur le chantier, donc celui-là, je n'en veux plus. » Et évidemment, le gamin était crevé, hein, un gamin de 15 ans à qui on fait faire du travail de chantier, et donc au moment du repas, il se dit « Bah, il y a une baignoire, je vais me reposer un petit peu. » Et manque de bol, il s'endort, quoi. Donc l'employeur était légèrement agacé, paraît-il, évidemment. Alors ça, c'est drôle, sauf que multiplié par 25 élèves dont vous avez la responsabilité en stage, ça cesse d'être drôle. Hein, ça devient une autre charge de travail. Donc ça s'ajoute à ce que j'ai dit avant. Hein, la gestion des stages en seconde est extrêmement difficile, et d'autant plus difficile que suite des élèves jeunes, ces élèves ne sont pas mobiles. Dans le meilleur des cas, ils ont un scooter, pas tous. Et donc là, beaucoup d'enseignants me disent, quand on leur demande de chercher un stage, ou même quand on leur en trouve un, il faudrait que le stage soit à peu près à même distance de chez eux que l'établissement scolaire. Ils ne veulent pas y aller. Là, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la géographie de l'estuaire de la Loire, que Saint-Nazaire, quand il dit Sud-Loire à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire est au bord de la Loire. Donc Sud-Loire, ça veut dire qu'il faut passer le pont. Alors c'est vrai que c'est un grand pont. Hein, vous connaissez peut-être le pont de Saint-Nazaire. Bon, mais enfin, ça s'arrête là. Hein, il y a quand même des bus qui le font. Alors c'est vrai qu'il y en a moins que des bus qui desservent la partie de la ville nord. Donc voilà, il était confronté à cette difficulté. Et visiblement, tous les collègues ont dit la même chose. Gérer les stages en seconde, C'est vraiment une charge de travail avec des élèves qui n'ont pas la maturité suffisante, qui n'ont pas l'autonomie, qui n'ont pas la mobilité et qui ne sont pas non plus tout à fait prêts, pour certains d'entre eux, à subir les contraintes de l'entreprise. Donc là, voilà, ça aussi, ça s'ajoute. Enfin, dernier point, je l'ai dit au-dessus, l'hétérogénéité. Donc là, encore une fois, ça dépend beaucoup des spécialités. Vous le savez sans doute aussi bien que moi, les spécialités ne sont pas égales dans le lycée professionnel du fait que vous êtes au-delà de l'obligation scolaire et donc c'est un marché. Donc vous le savez, les familles et les élèves ont des préférences pour certains types de spécialités et au contraire d'autres sont peu demandées. Donc forcément dans les spécialités peu demandées, l'hétérogénéité est faible puisqu'il y a pratiquement que des élèves qui sont plutôt en grande difficulté au collège et qui, à ce moment-là, subissent ce que nous appelons la double stigmatisation, c'est-à-dire que parfois, ils ne voulaient pas aller en lycée professionnel, mais en plus, ils ne vont pas dans la spécialité professionnelle qu'ils attendaient, donc ils sont mécontents. Ceux-là font partie des 14% qui s'expriment en disant qu'ils ne sont pas contents. Ils font partie beaucoup des décrocheurs. Vous savez que le lycée professionnel se distingue par un taux de décrochage élevé. La principale raison du décrochage, c'est soit la spécialité demandée n'a pas été obtenue, soit une déception par rapport au métier. Alors ça, le rajeunissement des élèves fait qu'il y a un peu plus de déception qu'avant, parce qu'un certain nombre arrivent, comme on vient de le voir, avec des représentations assez idéalisées et fantasmées du métier, et sont déçus par ce qui se passe. Mais donc, toujours est-il que dans les spécialités un peu plus demandées, il est clair que les enseignants se sont trouvés face à un accroissement de l'hétérogénéité des publics. Avec, comme le dit cette collègue, elle emploie la métaphore du TGV, des élèves qui vont très vite, qui intègrent très vite ce qui est donné, ce qui est enseigné, voire même pour certains, et notamment en enseignement général, quelque chose qui leur apparaît très facile parce que c'est finalement pas tellement plus compliqué que ce qui se fait au collège, quelquefois c'est même du même niveau, donc des élèves qui avaient des notes correctes n'ont pas de difficultés et qui se trouvent dans la même, qui sont jeunes hein, qui peuvent avoir tout juste 15 ans quand ils arrivent et qui se trouvent dans la même classe que des redoublants qui eux ont des difficultés et donc du coup il faut gérer ça, ce qui explique que les collègues se sont investis dans le suivi individualisé aussi. C'est parce que pour eux, c'est apparu comme une nécessité, assez vite. Ils se sont vite rendus compte qu'il n'allait pas être facile de garder un rythme dans certaines classes identiques pour tous les élèves. Donc tout ça, évidemment, je pense que, c'est pas la peine que j'insiste, ça indique clairement que cette réforme a été vécue par les enseignants sur le plan de la mise en œuvre, c'est-à-dire sur le plan des conditions de travail, comme extrêmement contraignantes et assez douloureuses. Même si, encore une fois, ils se sont investis, semble-t-il, assez largement, mais ça a quand même rendu leurs conditions de travail difficiles. Et je le répète, ça a souvent aussi réveillé des vieux conflits ou exacerbé des conflits, alors notamment entre enseignement général et enseignement professionnel. On sait bien que ça fait partie des... Alors, c'est moins fort aujourd'hui, je dis un mot là-dessus, parce qu'on est sur les PLP. Quand j'ai débuté il y a longtemps, c'était classique. Catherine Agulon avait écrit un livre qui sur l'enseignement professionnel où elle rappelle que il y avait un décalage, et Lucie Tanguy aussi beaucoup, qu'il y avait un décalage très fort entre les collègues de l'enseignement professionnel et ceux de l'enseignement général, parce que c'était un décalage de niveau de diplôme, c'est-à-dire qu'on recrutait des collègues pour les disciplines professionnelles avec un CAP et 5 ans d'ancienneté, avec éventuellement un bac, parfois un BTS, alors que la totalité des profs d'enseignement général avaient au minimum une licence. Donc ça créait évidemment des décalages culturels auxquels s'ajoutaient parfois dans les lycées professionnels industriels des décalages de genre. Les profs d'enseignement général étaient souvent des femmes et les profs de l'enseignement industriel des hommes et des vrais hommes de l'enseignement industriel. Donc avec des stéréotypes de genre légèrement accentués, si vous voulez, ce qui pouvait ne pas faciliter les rapports entre les deux. Bon, moi, j'étais licencié, mais homme, donc c'était un peu plus facile, mais c'est vrai qu'il y avait des écarts. Bon, aujourd'hui, donc ça peut parfois subsister. Aujourd'hui, ça s'est très très fortement atténué. Vous savez pourquoi ? On demande désormais dans toutes les disciplines professionnelles des niveaux de diplôme avec aux jeunes profs qui les amènent quasiment au même niveau que les profs d'enseignement général. Donc du coup, dans les générations qui ont, on va dire, moins de 40 ans aujourd'hui, ces décalages sont moins forts. En revanche, ce qui reste souvent, et c'est ça qui a émergé dans les débats là que j'ai indiqués, j'aurais même peut-être dû garder un extrait où c'était dit quasi explicitement, c'est que le rapport à l'enseignement général et à la culture générale est quand même assez différent, souvent, et que du côté de l'enseignement professionnel, on va avoir une vision de l'enseignement général comme étant quelque chose qui peut être facilement instrumentalisé au service de l'exercice du métier. Alors que de l'autre côté, évidemment, surtout pour les lettres histoire, il y a un rapport à la culture générale qui est fortement revendiqué. Et donc, quand un collègue d'enseignement professionnel dit « ils ont besoin de faire de l'orthographe et de la grammaire », le collègue de lettres répond « tu me casses les pieds avec l'orthographe et la grammaire, moi je les éveille à la littérature et j'ai pas envie de me taper des cours d'orthographe et de grammaire ». Donc ça, ce type de conflit peut subsister. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'en termes d'horaire, il faut pas oublier que dans les lycées professionnels, la discipline principale, c'est pas la discipline générale. Donc même si il peut y avoir des différences symboliques qui jouent encore vaguement en faveur du prof d'enseignement général un peu plus cultivé, un peu plus dans la réalité quotidienne, c'est bien les profs du métier professionnel qui ont les élèves le plus longtemps, qui sont décisifs en matière d'évaluation, etc. Donc on sait bien que parfois les profs d'enseignement général se vivent mal à l'intérieur des lycées professionnels. Ils ont les élèves moins longtemps, donc ils ont plus de classes, donc ils ont plus d'heures, et ils ont un peu l'impression souvent que leur discipline, elle est quand même très secondaire, moins en maths sciences souvent que en lettres histoire. Donc tous ces petits micro-tensions possibles, évidemment, ont très souvent réémergé au moment de cette affaire des heures à partager pour les enseignements individualisés. Et c'est pas un hasard si les lettres histoire sont montées au créneau dans beaucoup d'établissements. Je pense qu'il a, il tenait une espèce d'occasion de reprendre un peu de poil de la bête dans des situations où ils étaient parfois vous avez l'impression d'être en situation de d'être minoré ou d'être en situation de domination. Alors pour terminer sur les effets de cette réforme sur le travail de nos collègues, je reviens en quelques mots sur la question des identités professionnelles, parce que si on se dégage simplement de l'analyse au premier niveau de la charge de travail, des conflits internes et donc des tensions, des souffrances qui ont pu être vécues, à un niveau un peu plus symbolique ou un peu plus général, ça a travaillé, alors j'ai appelé ça des identités professionnelles, c'est le mot qu'on utilise en général. Bon, c'est un concept un peu flou, mais enfin, on peut quand même reconnaître que dès que lorsqu'on exerce une profession, dans cette profession, on s'investit avec d'une part un certain nombre de valeurs auxquelles on croit et qu'on met en œuvre dans l'exercice de cette profession. Par exemple, on peut croire à la justice et donc on peut considérer que ce qui est majeur dans l'exercice de l'évaluation, par exemple, d'un enseignant, c'est la justice. Donc ça, c'est pas du tout sûr que ce soit partagé par tous les enseignants, mais c'est assez fréquent chez les enseignants de lycée professionnel. Donc ça constitue une valeur. Et puis au-delà des valeurs qui constituent une identité professionnelle, il y a aussi tout simplement l'image qu'on a de soi, de sa valeur professionnelle, du fait qu'on est reconnu, pas reconnu. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Un sociologue qui s'appelle Dubard, mais j'ai oublié son nom, son prénom. Claude Dubard dit, il a d'ailleurs ça emprunté ça à un autre chercheur. Il y a une identité pour soi, une identité pour les autres. C'est-à-dire qu'on a soi-même une idée de ce qu'on vaut, de ce qu'on est, du mérite qu'on a eu à arriver là ou pas, etc. Qu'on garde pour soi, enfin parfois on l'extériorise, mais jamais complètement. Et puis on a l'identité que nous renvoient les autres, ce qu'ils vous disent de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous valez, etc. Et Dubard dit, on est constamment, l'identité professionnelle se construit souvent dans une espèce de négociation interne entre les deux. Il donne l'exemple de la négociation salariale dans le privé. Évidemment, chez nous, c'est la négociation salariale, il y a les heures sup, quand même. Mais en gros, c'est pas un problème. Mais dans le privé, quelqu'un qui va négocier une augmentation de salaire, c'est des travaux qu'il a sur lesquels il a réellement enquêté. Il a une idée de ce qu'il vaut lui et de ce qu'il pense qu'il devrait pouvoir demander, enfin dans son moi idéalisé. Et puis, il y a ce qu'il va vraiment demander, qui est le résultat entre une négociation interne, entre, bon, je vaux ça, oui, mais là, dans les conditions actuelles, un tel gagne ça, moi, je suis ça, il va penser ça. Et donc, il ne va pas demander exactement la même chose. Il y a une négociation de ce type. On est toujours à l'interne, dans son métier, dans ce type de négociation et donc de difficultés. Donc, l'identité professionnelle, c'est ça. Hein, c'est comment je me représente dans mon métier, à la fois les valeurs que j'investis dans ce métier auquel je crois et qui me font avancer, mais aussi l'image que j'ai de moi en termes de mérite, de valeur intrinsèque et de ce que les autres pensent de ce que je suis. Et donc, est-ce que je suis bien par rapport à ça ou pas, etc. Donc voilà, c'est ça l'identité professionnelle, en gros, pour aller vite. Alors, chez les PLP, je le disais tout à l'heure, et ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai travaillé il y a 5-6 ans, quand je suis arrivé à Nantes, avec une collègue qui s'appelle Tizou Pérez, sur les débutants, les PLP débutants. On a interrogé tout simplement les étudiants qu'on avait, enfin les stagiaires qu'on avait là. Il y a eu d'autres travaux qui ont été faits par Aziz Gelab, notamment essentiellement sur les PLP expérimentés qui travaillent depuis un moment. On tombe toujours sur les mêmes conclusions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on interroge un prof de lycée professionnel sur son métier, en général, les premiers mots, c'est « les élèves sont difficiles ». C'est un métier difficile, nos élèves sont difficiles, ils sont curieux, ils peuvent être violents, ils sont instables, etc. Donc il y a la première dimension qui est le regard que on a facilement quand on rentre dans la cour d'un lycée professionnel. Hein, bon, on a l'impression effectivement d'avoir affaire à des gosses qui sont durs, qui peuvent être parfois violents, qui sont facilement agités, qui sont peu respectueux, etc., qui s'expriment mal aussi par rapport à nos normes de langage. Donc ça, c'est le premier discours. Et puis vient immédiatement après le deuxième discours. Oui, mais en même temps, ils sont très attachants. Ça, c'est un discours que vous entendez presque tout le temps, très souvent. Même chez des profs qui se plaignent beaucoup. Hein, en même temps, ils sont très attachants parce qu'on voit bien que depuis qu'ils sont à l'école, ils souffrent, ils ont été c'est pas de bons élèves, et il faut bien dire que c'est pas tout à fait de leur faute, au collège quand même, les collègues, etc. Et là, vous avez un deuxième discours qui intervient, qui est le discours, alors là, on voit très bien ce que c'est en termes d'identité, hein. C'est le positionnement qui consiste à dire, nous, on nous envoie l'échec du collège, mais nous, on sait faire, et nous, quand on fait avec eux, on obtient des résultats que les autres n'ont pas obtenus. Alors, vrai, pas vrai, peu importe, mais c'est ça qui nous tient dans les lycées professionnels. C'est ça qui fait que les profs tiennent. Donc, du coup, une fois passée la réaction de méfiance, de peur ou d'hostilité vis-à-vis de ses élèves, très vite, on tombe dans ce que Tizou et moi, on a appelé une forme de compassion à l'égard de ses élèves, parce qu'on comprend leurs difficultés, et ces difficultés sont à la fois scolaires, bien sûr, mais surtout sociales. Ils viennent des milieux les plus modestes de la société française et parfois même à l'intérieur de ces milieux les plus modestes, des familles les plus fragiles. Hein, donc on a cette compassion. Et ils sont quand même un peu victimes de pratiques pédagogiques sous-entendues élitistes qui sont celles du collège, qui ne travaillent que pour les bons élèves et qui ne s'occupent pas de ceux qui sont en difficulté, ce qui est le sens même de notre métier. Nous, PLP, je parle à la place de mes collègues. Mais j'ai tenu ce discours, hein, je vous rassure tout de suite, hein, tout le monde le tient. De toute façon, vous pouvez pas tenir au sens propre dans un essai professionnel si vous ne tenez pas ce discours-là, parce qu'il est constitutif du métier. Mais ce qui est frappant chez les PLP, c'est qu'il est assez collectivement incorporé. Beaucoup plus fortement quand vous allez voir des collègues de collège. Dans des collèges, vous pouvez trouver des collègues qui tiennent ce discours-là, mais vous pouvez aussi trouver des collègues dans la même classe, la porte d'à côté, qui vous tiennent des discours que même un prof d'Hippocagne n'ose pas tenir, hein, sur le fait qu'il y a vraiment... voilà, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui sont doués, ceux qui ne sont pas doués. Moi, je m'occupe des doués, les autres, j'en ai rien à cirer. C'est pas mon problème, ils ne devraient pas être là, etc. Vous avez... ces deux discours-là peuvent coexister. Voilà, les identités professionnelles du secondaire sont beaucoup plus contrastées dans les lycées professionnels, et ce qui est frappant, je le répète, c'est même les jeunes profs, c'est-à-dire même ceux qui, parfois même, n'ont jamais enseigné en LP, adoptent très rapidement ce type d'attitude. Alors, avec des nuances géographiques, parce que c'est quand même plus facile de dire ça quand vous êtes dans l'Académie de Nantes, là je parle d'une comparaison que j'ai vécue, que quand vous êtes là où j'étais, en banlieue parisienne, c'est-à-dire passer à « oui, mais ils sont quand même attachants », ça prend 2-3 ans, en banlieue parisienne. Bon, là, ça peut se faire en un mois, si vous voulez, parce que Parce que bon, les comportements ne sont pas quand même aussi immédiatement agressifs. Moi, je souris assez souvent en tant que formateur quand je vois des collègues de lycée professionnel qui se plaignent de leurs élèves à Nantes. Parce que, bon, bref, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes publics. Il y a pas, surtout pas les mêmes conditions de vie, tout simplement. Hein, et donc, ça produit pas... Puis bon, il y a la question, effectivement, aussi de l'immigration qui n'arrange pas les choses en banlieue parisienne. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais voilà, c'est pas les mêmes publics. Néanmoins, sur toute la surface du territoire, vous trouvez cette tendance à cette identité professionnelle qui est donc, pour dire vite, très centrée sur la réussite des élèves, sur le soutien aux élèves. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, forcément, cette réforme qui raccourcissait de 4 à 3 ans, elle atteignait l'identité professionnelle des PLP sur le plan, sur cette dimension-là, c'est-à-dire la dimension de compréhension, de compassion, je cherche l'autre mot qui serait plus juste, mais il m'échappe, d'adhésion, oui, d'empathie, voilà, merci, d'empathie avec les élèves. Bon. Donc, du coup, ça se voit clairement dans les discours, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je parle d'identité en tension, c'est que là, voilà un collègue qui dit le contraire. Pourquoi ? Parce que, en même temps, le fait de pouvoir conduire plus souvent et en plus grand nombre les bons élèves, d'abord d'avoir un peu plus de bons élèves dans cette spécialité, et de pouvoir les amener au BTS, ça, c'est très positif. Et là, ceux qui sont dans ce cas-là, là, c'est un prof de mécanique moto. Alors, évidemment, mécanique moto. Il y a probablement, disons, 300 000 garçons qui envisagent de rentrer en lycée professionnel à la sortie de la troisième, chaque année, enfin non, j'exagère, mettons 150 000, il doit y en avoir 149 000 qui rêvent de faire de la mécanique auto. Je plaisante, mais enfin, voilà, c'est quelque chose de très demandé. Donc forcément, lui, il a des élèves qui viennent, qui à 15 ans, viennent de tout le département, voire même de plus loin, qui sont internes, mais qui arrivent, ils arrivent sur leur scooter, lequel est déjà trafiqué, ça fait déjà 3 ans qu'ils travaillent sur le scooter. Donc forcément, hein, là, il a des élèves très motivés. Et donc lui, on le voit, voilà, là, il éprouve une satisfaction, il se dit, ça y est, on me donne la possibilité, la réforme me donne institutionnellement la possibilité de conduire beaucoup plus d'élèves qu'avant au BTS. Donc ça, cette dimension-là, elle est vécue positivement. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça, parce que 4 ans réduits à 3, ça donne aussi ce discours-là. Cette collègue était très, très... c'est une prof de secrétariat. Alors, elle avait de l'hétérogénéité. C'est elle qui parle des TGV à un autre moment. Elle a quelques très bonnes élèves. Hein, il n'y a pratiquement pas de garçons, hein, toujours pareil, qui vont vers ses spécialités. Elle a quelques très bonnes élèves dont elle voit déjà qu'elle va pouvoir les conduire en BTS. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ben, elle va forcer pour qu'elles aillent en BTS. Elle va les convaincre, elle va les préparer. Elle pense qu'elles ont une chance. Et puis, elle en a dont elle dit... je crois me souvenir qu'elle nous dit à un moment, mais elle, on a dit qu'elle pouvait même pas rentrer en bac pro. Elle dit, c'est une exécutante. Voilà, on pourra jamais en faire autre chose, c'est une exécutante. Et elle se bat avec ces deux extrémités. Donc, souffrance. Elle le dit, hein, c'est, je souffre. Et c'est sincère, hein, c'est pas une souffrance d'image pour faire plaisir aux sociologues, hein, on sentait que ça la travaillait profondément. Donc voilà, mise en tension, beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, c'est ce que disent les deux autres collègues. J'ai pris celle-là, cette citation, elle est assez longue, mais ce prof était très prolixe, et puis il avait une analyse assez approfondie déjà de son public. Donc, c'est un prof énergétique froid, c'est quelqu'un qui travaille dans la climatisation. Voilà, la grande difficulté, sur le papier, ça fonctionne, mais il faut qu'on aille vite. Si les élèves ont un bon niveau, alors voyez ce qu'un PLP appelle un élève de bon niveau, hein, c'est travailleur, pardon, cadre familial structuré. Donc tout de suite interviennent les dimensions sociologiques, si vous voulez, c'est l'analyse sociale du bon élève. Mais le problème, c'est qu'on a plus de la moitié qui sont en difficulté au collège, en grande difficulté, ils sont au fond de la classe depuis la sixième, et là voilà, là vous avez les mots que vous retrouvez tout le temps, ils ont besoin de réconfort, de retrouver leur marque, ça fait partie de mon travail, de mon identité professionnelle, d'aider cela, de m'intéresser à ces élèves-là. C'est-à-dire de ne pas les considérer d'entrée comme un échec dont je ne m'occupe pas, mais au contraire, j'ai pour mission, pour vocation quelque part, même si ce n'est pas une vocation, c'est une vocation qui se construit dans le cours du métier. Il est rare qu'on devienne PLP comme ça avec une vocation exceptionnelle, mais une fois qu'on y est, on se la construit. Et donc voilà un prof qui le dit clairement, qu'est-ce que je fais, hein, pour qui je travaille, comment je fais pour emmener les meilleurs vers le BTS, et je sais qu'ils vont y aller, je sais qu'ils peuvent réussir, mais qu'est-ce que je fais avec les autres ? Donc là, on a vraiment une tension, et elle est clairement dite par ce prof de mécanique moto, c'est le même hein, que tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il n'a pas que des très bons élèves, qui dit maintenant, voilà, si c'est faire du bien, entre parenthèses, aux bons élèves, en faisant mal aux élèves qui sont en difficulté, je ne veux pas trancher. Donc cette phrase-là, je l'ai gardée parce qu'elle est vraiment... c'est en quelques mots, il résume la sensation qu'ont eu les collègues. Alors ça existait déjà, hein, il ne faut pas non plus penser que la réforme du bac pro a apporté ça à nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a fortement exacerbé, elle l'a fortement accentué, à la fois parce qu'elle a placé les collègues dans des conditions de travail complexes, douloureuses, difficiles, et qu'en plus elle les a placés devant cette hétérogénéité, pardon, qui présente à la fois des avantages, je vais pouvoir emmener plus d'élèves vers le BTS, on me l'offre, et en même temps une crainte, je risque de pénaliser des jeunes qui vont échouer, et je le disais au début, sans avoir de filet de sécurité que représentait avant le BEP. Donc pour conclure, ça va, je suis dans les temps, pas trop long. C'est ce qu'on a fait à la fin du rapport. On nous demandait pas de faire des propositions. Mais c'est quand même un rapport qu'on rendait à une organisation syndicale, donc même s'ils ne nous l'avaient pas explicitement demandé, c'était un peu normal. Et puis je pense qu'aussi on a eu envie de le faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, vis-à-vis des profs de lycée professionnel, il est clair qu'il faudrait que d'une manière ou d'une autre, je vais donner d'autres pistes là-dessus. Après, je ne vais rien vous dire d'original, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je pense que tout le monde a un peu cette idée-là en tête. Il est clair que la complexité de la tâche confiée aux collègues en lycée professionnel nécessiterait d'être reconnue. On ne peut pas demander à des gens d'être à la fois des enseignants qui font du suivi personnalisé, qui font de la pédagogie différenciée, là pour le coup eux ils savent ce que ça veut dire, qui gèrent des élèves en stage, qui organisent des contrôles en cours de formation, j'ai ajouté qu'ils sont conseils d'orientation. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans tous les entretiens qu'on a eus avec les jeunes étudiants de BTS, pratiquement il n'y en a pas un qui ne nous a pas dit et qui n'a pas cité à un moment le rôle de ces enseignants dans qu'est-ce que je vais faire après, dans le conseil. C'est-à-dire, très souvent, les collègues de lycée professionnel informent, ils les informent au fur et à mesure de la formation, leurs élèves, de ce qu'ils peuvent faire après. Et il y en a plusieurs, dans les 17 qu'on a interrogés, il y en a à peu près la moitié qui nous ont dit ben, « en fait, j'ai fait ça parce que ma prof m'a dit que je pouvais faire ça ». Donc ce conseil-là, il a un rôle tout à fait essentiel. Il est complètement invisible. Il n'a aucune visibilité officielle et pourtant il est essentiel parce qu'il ne faut pas oublier que les élèves de lycée professionnel appartiennent majoritairement à des familles qui justement n'ont pas le capital social et culturel qui leur permet de s'informer facilement sur les possibilités d'études. Donc ils sont totalement dépendants de l'institution et l'institution c'est les profs. Et d'ailleurs certains élèves, on le voyait bien, certains étudiants qui étaient en BTS, on voyait bien qu'ils étaient embêtés de manquer de conseils pour la suite quand ils échouaient, etc. Et ils étaient là, certains étaient explicitement là parce que les profs leur avaient dit il faut que tu fasses ça, tu vas aller voir là, et qui les guident, hein, qui leur disent l'établissement est à tel endroit, voire même parfois qui se substituent pas aux parents parce que c'est des gosses qui ont 18-19 ans, mais enfin ils sont vraiment conseillés. Donc je l'intègre ça, cette notion là, parce que je pense qu'elle fait partie, oui, je sais, c'est pour ça aussi que j'ai intégré tout ça. Et puis j'ajoute le travail d'équipe, parce qu'il y a une exigence de travail d'équipe aujourd'hui, alors ça se fait plus ou moins, mais elle est nouvelle. Donc du coup, je pense qu'il y a là un tabou qu'il va falloir un jour affronter, d'une manière ou d'une autre. La notion d'obligation horaire, telle qu'elle est pensée dans l'éducation nationale, en termes de 18 heures, etc., elle n'a pas de sens dans un lycée professionnel. Elle a déjà, parfois dans certains collèges, elle a plus beaucoup de sens, mais là, clairement, elle n'en a plus. On peut pas mesurer le travail des enseignants uniquement sur ce qui est donné comme étant leur obligation de service, c'est-à-dire ce qu'ils font en cours. Parce que si on s'arrête là, le lycée professionnel s'arrête aussi. Hein. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qui se passe, mais s'ils se contentent de faire leurs 18 heures de cours, l'institution est en péril, et les élèves aussi. Ce qui se heurte à ça, ça fait partie de des dadas que je répète à longueur de temps depuis maintenant une vingtaine d'années, dans l'espoir que ça finisse par rentrer. Ce à quoi on se heurte, c'est le principe comptable de l'éducation nationale qui ne sait compter que prof devant élève. Vous êtes devant vos élèves, on vous paye, vous n'êtes plus devant vos élèves, qu'est-ce qu'on fait? D'où les négociations sur les heures sup, hein, ou sur les heures. C'est que dès qu'un prof fait autre chose que ce que le comptable enregistre, mais par ailleurs quelque chose que l'institution lui demande de faire. Et là, en plus, je vous précise que mon épouse est PLP et directrice d'un IFAS. Je peux vous assurer que c'est parfois... Alors je lui dis, mais non, mais ils ne peuvent pas te le payer parce que tu sais, c'est le comptable. Je lui dis, oui, j'en ai rien à souhaiter, ils ne peuvent pas me payer, etc. Forcément, hein, je veux dire, elle passe son temps à avoir des activités, celles que vous venez de citer, administratives, organisationnelles, etc., que l'éducation nationale ne s'est pas payée parce que ce n'est pas dans ses lignes comptables. Donc là, on a un problème. Je crois qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de le dire. Le travail que font les collègues, c'est pas du tout là, je sais pas, un positionnement syndical, hein. C'est un positionnement, je dirais, de sociologue du travail, si vous voulez. On est là devant une organisation du travail qui ne peut plus fonctionner sur les critères traditionnels avec lesquels la comptabilité publique de l'éducation nationale comptabilise le travail des enseignants. C'est déjà un peu vrai dans les collèges, mais ça l'est massivement là. Et donc, du coup, je termine là-dessus, parce qu'on a beaucoup aussi insisté là-dessus dans le rapport. Il est clair que ce bac pro nécessite... Mais alors là, tout le monde est d'accord. Hein, tous les corps d'inspection avec qui j'en parle, enfin, tout le monde nous dit, oui, c'est vrai, il va falloir qu'on arrive à une modularisation des parcours. Je dirais simplement, modularisation des parcours en amont et en aval. C'est-à-dire qu'il faut moduler les parcours. Il va falloir arriver, d'une manière ou d'une autre, à les moduler avant le bac. Mais l'arrivée massive des bacs pro en BTS nécessite aussi ça. Et l'an prochain, Sabine, si tu m'invites encore, je raconterai l'expérience qu'on est en train de suivre. Mais là, c'est dans le cadre du projet Léa IFELA, avec un collègue qui a mis tout un dispositif en place pour les bacs pro en BTS à Saint-Nazaire. Voilà, je vous remercie.